Je m'appelle Daniel Atsidi, je suis ex-professeur agrégé de l'acrobatique, je suis à la retraite depuis un certain nombre d'années. Je suis présidente de l'amitié judéo-chrétienne de Strasbourg et je travaille beaucoup dans le dialogue interreligieux, pas seulement à l'amitié judéo-chrétienne, mais également dans d'autres groupes qui se réunissent à intervalles plus ou moins réguliers. Voilà. Et puis je suis. Ce que m'a été demandé, c'est très précisément par Marie-Christine, c'est ça? Ce qui m'a été demandé, c'est la liberté d'expression dans la Bible. Je précise. Pas dans le réel du quotidien, qui ne révèle pas grand intérêt. C'est l'idée que les juifs sont des citoyens français, voilà, ils vivent au même rythme que les autres. La liberté d'expression dans la Bible. Et je vais procéder de la manière suivante. Je vais faire une petite introduction rapide sur la notion de liberté d'expression, mais vraiment très rapidement, très schématiquement. Ensuite, j'examinerai ou je proposerai un certain nombre de textes bibliques ou d'énoncés bibliques dans lesquels on peut repérer cette notion de liberté d'expression. Et dans un deuxième temps, je vous proposerai également des textes qui ne sont pas bibliques, mais qui se trouvent dans la littérature rabbinique. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, quelques mots quand même sur la liberté d'expression, ça va forcément être des indications plus ou moins bateaux que vous connaissez bien. La liberté d'expression est un droit, un des droits fondamentaux, auxquels les démocraties en Occident sont particulièrement attachées. Parce que ça nous paraît résumer, synthétiser la notion même de liberté. Le droit d'exprimer ce qu'on pense, le droit d'exprimer ce que l'on croit, et à travers ce droit d'expression, cette liberté d'expression, c'est évidemment la liberté de penser qui est en jeu également. Ce droit ne va pas de soi, ou en tout cas, n'est pas toujours avec des choix dans le passé. Vous savez qu'il est inscrit, qu'il n'a été qui n'est à l'ordre du jour que depuis la Révolution française, qui a été inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, à cet moment-là, en 1789, et qui a été inscrit également dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1946. C'est un des piliers de la démocratie, et nous avons bien vu en janvier 2015, au moment où ce droit fondamental a été si violemment remis en question, nous avons vu le sursaut national qui s'est manifesté, justement, dans les foules qui sont descendues dans la rue pour assurer envers et contre tout ce droit, le rattachement à ce droit, qui est, encore une fois, un fondement, un socle même de la démocratie et de la manière dont nous vivons et dont nous voulons vivre ici. Le deuxième petit point d'introduction, c'est que la liberté d'expression en France est encadrée par la loi. Il y a des limitations à la liberté d'expression, et ces limitations, ce sont la liberté d'autrui, c'est d'ailleurs de cette manière que les choses sont formulées dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et également la sécurité, à savoir qu'il est interdit de faire l'apologie des crimes de guerre, de faire l'apologie du racisme, de la violence, d'inciter à la violence et à la haine, etc. D'accord ? Et que ces choses-là, et on le comprend parfaitement, sont limitatives de la liberté d'expression. Ça n'est pas comme ça partout. Il y a des pays où la liberté d'expression est totale, et où on peut ensuite saisir le tribunal si on estime que ça a été trop loin. Je passe donc à ma première partie. Étant donné que le temps est limité, justement, la liberté d'expression dans la Bible. Et je voudrais d'abord attirer votre attention sur ce qui m'a frappé moi-même, c'est au fond une espèce de paradoxe dans la formulation même, puisqu'on accole, on juxtapose deux choses, deux termes, deux expressions qui sont entre lesquelles il y a un réel décalage. Un décalage chronologique, puisque la notion même de liberté d'expression, c'est quelque chose d'éminemment contemporain, d'éminemment moderne, et que la notion même de Bible est évidemment connectée avec une idée du passé, de quelque chose de très ancien. Donc, parler de liberté d'expression dans la Bible, c'est évidemment à des cas que le titre a été proposé de cette manière-là, c'est peut-être d'abord faire ressortir ce décalage-là et faire ressortir également la question est-ce que cette notion moderne et contemporaine est compatible avec un texte ancien, très ancien, comme le texte biblique. Et, ou alors on peut retourner la question et dire, et demander, est-ce que cette notion de liberté d'expression, au-delà de sa formulation qui est évidemment contemporaine, est-ce que les notions qu'elle recouvre, les idées, les faits qu'elle recouvre, sont vraiment seulement modernes, sont vraiment seulement contemporaines. La deuxième remarque que je voudrais faire, ce que j'ai vraiment perçu dans ce titre un peu paradoxal, c'est une possibilité de se demander s'il n'y a pas quelque chose d'incompatible justement entre la Bible telle qu'on l'entend ou qu'on la représente habituellement et cette notion de liberté d'expression, dans la mesure où que dans la mesure où, pardon, qui peut apparaître à l'oreille ou à l'esprit de celui qui entend un titre tel que celui-ci, c'est peut-être une dissymétrie entre un Dieu qui est perçu habituellement quand on parle de la Bible comme un Dieu parfait, comme un Dieu tout-puissant, pour toutes ces choses qu'on a l'habitude d'entendre et de dire aussi à propos de Dieu, dissymétrie donc entre un Dieu omnipotent, omniscient, parfait, tout-puissant, et un homme, au contraire, faillible, entraîné par ses passions, entraîné par la violence. Voilà. Hein, donc, toutes ces choses-là, je les ai perçues un petit peu dans ce titre-là. Alors, je vais procéder de la manière suivante, donc dans cette première partie, où j'examine ce que peut être, ou ce que pourrait être, quelque chose qu'on pourrait qualifier de liberté d'expression dans la Bible, je vais examiner ces trois modalités. D'abord, je vais parler de la parole prophétique, où les choses sont les plus évidentes. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais parler de ce que j'ai appelé la mise en question de Dieu à travers les textes bibliques. Et dans une troisième sous-partie, quelque chose qui va peut-être être surprenant, c'est que l'intitulé la mise en question voulue par Dieu. Alors, la parole prophétique d'abord, les prophètes, je vais aller vite parce que je pense que ce sont des choses que vous connaissez, les prophètes sont tous, les livres des prophètes sont tous habités par le reproche virulent, d'abord au pouvoir en place. Je vais citer deux ou trois exemples. Le prophète Nathan va reprocher à David, il faut quand même comprendre que nous sommes dans le cadre d'une monarchie, les prophètes que j'ai évoqués, aussi bien Élie par rapport au roi Achab, que vous dites peut-être que vous prononcez peut-être Achab, en hébreu c'est Achab, aussi bien donc Élie par rapport au roi Achab, que Nathan par rapport au roi David, que Jérémie, je ne sais que ces trois-là comme exemple, par rapport au roi Sédécias et au roi Joachim, ce sont quand même des individus qui sont en situation de fragilité par rapport à un pouvoir monarchique, un pouvoir monarchique fort. Or, aucun ne s'est privé, je vais être un peu familière, d'appeler un chat, et de faire des reproches d'une extrême virulence à ce pouvoir en place. Certains d'ailleurs l'ont payé relativement cher. Jérémie a été un moment emprisonné et a été en but à la violence même de ce pouvoir aux âmes. Mais ça ne nous a pas empêché de parler. Je vais vous citer très rapidement un des textes. Le prophète Élie, dans le premier livre des rois, va reprocher au roi Achab de s'être approprié, avec l'aide de la reine Jézabel, va lui reprocher de s'être approprié la vigne de Naboth. Que vous connaissez tout ça, Je cite simplement un verset parce qu'on n'a pas le temps de s'attarder sur le texte, mais c'est aussi pour vous faire sentir la pénalité. Élie va dire au roi, quoi, tu as assassiné et maintenant tu prends possession. Et ensuite, il va dire quel châtiment va l'attendre pour avoir transgressé une loi morale élémentaire. Le roi David a été en but lui aussi aux reproches, à des reproches virulents de la part de Nathan, du prophète Nathan, qui là, vous vous en souvenez, envoyé à la mort un soldat de son armée, qui s'appelle Uri, pour pouvoir s'approprier la femme d'Uri, Bethsabée, en hébreu Bathsheba. Et Nathan lui dit ceci, dans le deuxième livre des rois, « Tu as fait périr par le glaive Uri le Chéthéen et pris sa femme pour épouse. Oui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Et bien l'épée ne cessera jamais de menacer ta maison parce que tu l'as maîtrisé, parce que tu as pris la femme d'Uri le Chéthéen pour en faire ton épouse. » Un troisième exemple de prophète, mais j'aurais pu passer la soirée à vous lire ce texte-là, de prophètes qui affrontent le pouvoir politique, c'est Jérémie au chapitre 22 qui s'adresse au roi Josaphat et qui lui dit ceci: penses-tu être roi parce que tu mets ton orgueil dans le cèdre? Le cèdre, c'est un bois précieux dont les rois se servaient pour leur ameublement, pour la décoration de l'embris de leur mur. Penses-tu être roi parce que tu mets ton orgueil dans le cèdre? Ton père aussi mangeait et buvait, mais il pratiquait la justice et l'équité. Il faisait droit aux pauvres, aux malheureux. Voilà certes ce qui s'appelle me connaître, dit l'Éternel. J'attire votre attention sur le fait que connaître l'Éternel, dans la parole du prophète Jérémie, c'est s'acquitter de règles éthiques, des lois éthiques, des lois d'assistance à l'autre et de compassion par rapport à l'autre. Les prophètes ne font pas seulement des reproches au pouvoir en place, mais également au peuple. Au peuple, aux gens qu'ils côtoient. Et vous connaissez certainement ce très beau texte d'Isaïe, au chapitre 56, que nous prenons, nous les Juifs, que nous lisons, pas n'importe quel moment, le jour de Kippour, c'est-à-dire le jour où nous sommes invités pendant toute une journée de jeûne à faire teshuvah. La teshuvah, c'est le retour, littéralement, le retour sur ce que l'on a fait, le moment de bilan. Et c'est ce jour-là, à l'office de l'après-midi, c'est lu ce texte d'Isaïe, dont je vais vous citer là aussi deux ou trois versets, mais qu'il faut vraiment relire parce qu'il est absolument magnifique. Isaïe dit ceci: oui, vous jeûnez, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il est lu le jour de Kippour. Oui, vous jeûnez pour fomenter querelles et dissensions, pour frapper d'un sein brutal. Mais voici le jeûne que j'aime, c'est de rompre les chaînes de l'injustice, de dénouer les liens de tous les jours, de renvoyer libre ceux qu'on opprime, de briser enfin toute servitude, plus encore de partager son pain avec la famille. J'ai arrêté ici, il y a d'autres invitations, loger sur soi de malheureux, etc. Donc là encore, même idée, les reproches, ce sont les reproches, c'est peut-être encore plus précis ici, ce que le prophète reproche à ses contemporains, c'est de pratiquer une religion hypocrite, c'est-à-dire de s'adonner aux jeunes. Au début, avant le passage que je vous ai lu, les gens disent: mais qu'est-ce qui se passe? Nous jeûnons et pourtant Dieu ne reconnaît pas ce que nous faisons. Il leur dit: votre jeûne, c'est du vent, c'est pure hypocrisie. Le vrai jeûne que j'aime, c'est la compassion à l'égard de ceux qui sont en défense. Le deuxième. Alors, donc, les prophètes font des reproches au pouvoir et au peuple, mais ils résistent également à Dieu. C'est une autre facette, si vous voulez, de la liberté d'expression. Les prophètes ne sont pas des demi-mouvis aplatis par terre, fi de leur propre personnalité, bien au contraire. Ce sont souvent des personnalités qui vivent durement l'espèce de rapt c'est, le mot est entraîneur, une espèce de racle psychologique qu'il ressent lorsque Dieu, lorsque la parole de Dieu s'empare d'eux et il résiste à cela. Et c'est ainsi que Jérémie, par exemple, qui est celui qui résiste le plus doucement, si je veux dire, va dire au moment où la parole divine s'empare de lui, et je m'écriai, et quoi, éternel Dieu, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'angoisse du prophète, qui va devoir affronter finalement tout le monde, qui va devoir se dresser contre tout le monde, et qui quelque part ne veut pas de cette situation, veut rester dans son anonymat tranquille. Il va, donc Jérémie le dit ainsi, mais Jonas par exemple, lui, va, vous le savez, dans le premier chapitre du livre de Jonas, il va fuir la parole de Dieu, il va s'embarquer à bord d'un navire, il va descendre à fond de cale, il va dormir, c'est très intéressant de voir le mouvement de descente continuelle de Jonas, qui veut quelque part, on dirait aujourd'hui que Jonas a un comportement suicidaire, il veut s'abstraire, il le dit d'ailleurs, il le dit à la fin du verset, lorsque il aurait été utilisé une deuxième fois par la parole de Dieu, il dit à Dieu, j'aurais préféré mourir que vivre dans ces conditions. Et Moïse lui-même, dans le livre de l'Exode, va refuser par 5 fois la mission que Dieu lui demande de l'assumer, à savoir la mission de libérer les esclaves hébreux. Et la 5e fois, il va trouver toutes sortes d'habitudes, toutes sortes d'excuses. Et il va dire ceci, que j'ai retraduit parce que je trouvais que la traduction de la Bible du rabbinat, par exemple, me paraissait un peu plate par rapport. J'ai traduit littéralement le passage parce que je trouve que c'est plus fort. Il dit ceci, de grâce Seigneur, je traduis maintenant littéralement, je ne suis pas un homme de parole au pluriel, ça veut dire je ne sais pas parler, je ne suis pas un homme compétent, spécialiste en parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car ma bouche est pesante et pesante ma langue. Là aussi, on sent la détresse de Moïse, et à ce moment-là, mais on en reparlera tout à l'heure, Dieu, qui jusqu'à présent a patiemment, si j'ose dire, repoussé, essayé de convaincre Moïse, va lui dire maintenant, tu y vas, point et tout. Mais je reparlerai de cet aspect-là tout à l'heure. Donc, la parole prophétique, c'est une chose, mais on a également dans la Bible des passages extrêmement intéressants où les personnages bibliques, les beaux et les moins bons, vont remettre en question la parole divine. Et je commencerai par Caïn, au chapitre 4 de la Genèse, qui, ayant tué Abel, va répondre à l'interpellation divine en disant « Suis-je le gardien de mon frère ?»« Suis-je le gardien de mon frère ?» Et le drape, à cela aussi je l'ai dit tout à l'heure, le drape, c'est-à-dire le commentaire rabbinique, ne s'est pas trompé dans la finesse, ne s'est pas trompé en analysant de façon extrêmement fine et attentive cette question posée à Dieu « Suis-je le gardien de mon frère ?» Le mot utilisé par Cain dans ce verset, c'est le mot anochi. Anochi en hébreu, c'est un des deux termes qui veut dire je. Il y en a un qui est ami, c'est celui qu'on emploie en hébreu d'aujourd'hui, en hébreu moderne également, et il y en a un autre qui est anochi. Et c'est anochi, c'est le terme, c'est le je divin habituellement. C'est le terme qu'on trouve dans le premier commandement, je suis l'éternel ton Dieu, c'est anochi qu'on trouve. Et le Midrash va analyser en disant « Suis-je le gardien de mon frère ?» Il va lire la phrase ainsi. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de ponctuation dans le texte hébraïque, ni ponctuation d'ailleurs, ni vocalisation. J'ouvre évidemment la porte à une multitude de interprétations. Le Midrash, le commentaire rabbinique, va lire le texte ainsi. « Le gardien de mon frère, c'est Anochi. » C'est-à-dire, c'est toi, Dieu. Soit celle qui peut dire anochi. Et donc on voit bien ici comment, on le sent même dans la question, si je le gardien de mon frère, on entend implicitement, ça n'est pas moi le gardien de mon frère. C'est une question historique de toute façon. Mais le Midrash l'approfondit en montrant bien la mise en question, la critique formulées à l'égard de Dieu. Un autre exemple, c'est celui d'Abraham. Abraham, au chapitre 18, dans la Genèse, va être informé du sort qui attend les villes de Sodome et de Gomorre. Et il va, le texte biblique dit alors, Abraham s'avança. Et il s'avance pour remettre en question la décision divine. Il va discuter pied à pied avec Dieu en lui disant, mais est-ce que tu vas anéantir en même temps que les méchants, les justes? Et s'il y a 50 justes dans les villes, est-ce que tu ne vas pas les sauver en faveur de ces 50 justes? Et il va ensuite descendre ses prétentions, 40 justes, 30 justes, 20 justes, 10 justes. Hein? Et l'une des interpellations parmi d'autres qu'il va faire à Dieu, c'est la suivante, au verset 23 du chapitre 18, celui qui juge toute la terre serait-il un juge unique, injuste? Serait-il un juge injuste? Il y a là ce qu'on pourrait appeler, en tout cas de l'audace, et même de l'insolence, de s'adresser à Dieu et de le remettre en question, de remettre en question sa décision. Le troisième exemple que je voudrais vous donner, c'est l'exemple de Moïse dans l'Exode, au chapitre 32, lorsqu'il redescend du mont Sinaï et qu'il voit le peuple en train de danser autour du fameux veau d'or qu'il a érigé en divinité, en idole. Moïse va implorer le pardon divin pour le peuple et il va dire, à deux reprises il va l'implorer, et la deuxième fois il va simplement dire ceci: pardonne leur faute et sinon efface-moi du livre que tu as écrit. Et Dieu va pardonner. Je reviendrai donc sur cette action divine, aux interpellations, aux apostrophes des personnages de la Bible. C'est la troisième sous-partie que je vous ai annoncée, cette mise en question qui est quelque part souhaitée par Dieu. Alors je reprendrai pas les mêmes exemples, je vous en donnerai trois autres. Le premier, c'est l'exemple de Noé au chapitre 6. On ne le sent pas quand on n'aborde pas le commentaire et qu'on n'est pas attentif aux mots utilisés. Dans le chapitre 6 au verset 9, on nous présente le personnage de Noé en nous disant que Noé était, je traduis, comme moi je traduis, Noé fut un homme juste, intègre dans sa génération. Il s'habite, c'est juste, et sa mine intègre, entier, dans sa génération. La Bible le verra bien traduit parmi ses contemporains, mais dans sa génération est plus parlant. Et ensuite, dans les deuxième phrase, dans le même verset, Noé marchait avec Dieu. Et le commentaire rabbinique remarque que, premièrement, le compliment qui est fait à Noé est tout relatif. Il était un homme juste et intègre dans sa génération, qui évidemment restreint les choses. Et le commentaire dit, on peut comprendre de deux manières, soit s'il était intègre juste dans une génération pervertie comme la sienne, que n'aurait-il pas été dans une génération meilleure? Mais on peut comprendre aussi, il était juste et intègre que par rapport aux hommes, aux personnes qui l'entouraient. Parce qu'au dicton, au royaume des aveugles, le borne roi. Hein? Donc, on perçoit déjà ici le compliment mitigé, ou en tout cas, en tout cas la lecture quand c'est le commentaire. Et puis, il y a une deuxième remarque qui est faite. Le verbe utilisé, c'est Noé marchait avec Dieu. Et le commentaire rabbinique fait remarquer qu'il y a un autre personnage pour lequel le verbe marcher est utilisé. c'est Abraham. Mais pour Abraham, il est dit ceci. Abraham marchait devant Dieu. D'où la remarque, je remarque, faite par la littérature de ce commentaire, la littérature universitaire, qui dit ceci, c'est que Noé était inférieur à Abraham. Et en quoi était-il inférieur? Écoutez bien. Ce que Abraham, précisément, est intervenu pour ses contemporains. Il a essayé de faire revenir Dieu sur sa décision. Et il a argumenté. Mais non, Noé restait muet. Il s'est contenté d'être un exécutant. Il a obéi. Il a été docile. Mais à aucun moment, il n'a pris la parole, il n'a pris l'initiative d'interpeller Dieu et de prendre au fond ses responsabilités d'homme, d'être humain. On le voit mieux, alors je dis que cette interpellation, cette prise de parole humaine était souhaitée par Dieu. Là, on voit seulement que le rabbin, si vous voulez, le commentateur, souligne l'insuffisance de ce personnage de Noé, en dépit de ce qui semble être dit dans sa présentation. Mais on le voit beaucoup mieux avec un personnage comme Abraham, au moment de ce qu'on a appelé, indiquement d'ailleurs, le sacrifice d'Isaac, au chapitre 22 de la Genèse. Il y a tout un magnifique commentaire dans ce chapitre qui est fait par Marie Dalmarie, que certains de vous connaissent peut-être. C'est une psychanalyste qui a écrit plusieurs livres dans lesquels elle commente, mais en s'appuyant sur sa pratique psychanalytique, dans lesquels elle commente des textes bibliques, hébraïques, et aussi des textes du Second Testament, des textes grecs. Et dans le livre qui s'appelle Le sacrifice interdit, qui est paru dans une collection de poches, elle présente un commentaire extraordinairement passionnant, et dans lequel, curieusement, elle retrouve des intuitions du commentaire rabbinique, alors qu'elle dit qu'elle n'a pas travaillé le commentaire rabbinique. Et donc, je voudrais vous montrer, à travers ces textes, dans ce chapitre très scandaleux, très révoltant de la demande divine à Abraham de sacrifier son fils, il est écrit au chapitre 22, ceci, Dieu parle à Abraham et lui dit, la traduction habituelle, c'est monte au sommet de la montagne et offre en holocauste son fils. D'accord ? Le terme utilisé, c'est fais-le monter. Alors, il se trouve que le mot holocauste se dit hola et que monter, ça se dit avec les mêmes lettres, aline, lamaté, olé, monter. D'accord ? Donc on peut lire aussi, et c'est ce que le commentaire rabbinique va faire, non pas sacrifier, d'ailleurs, ça n'est pas à l'évou, ça veut dire fais le monter, littéralement, le texte qui est ici, fais le monter, en élévation sur la montagne. Et Rashi, qui est le grand commentateur de la Bible, sans lequel, même aujourd'hui encore, on ne lit pas la Bible, d'ailleurs, chez les juifs, on ne lit pas la Bible de mon discours. Rashi va dire ceci, et je vous ai traduit son commentaire. Dieu ne dit pas à Abraham, immole-le. Dieu ne voulait nullement cela, mais seulement le faire monter sur la montagne. Et une fois qu'il l'aura fait monter, il lui dit, fais-le descendre. De très nombreux commentaires rabbiniques ont exprimé cette idée. Qui savent que l'épreuve au fond pour Abraham, ce n'était pas de sacrifier son fils, c'était de faire monter son fils sur la montagne, et vous lirez le commentaire de Marie Dalmarie sur ce qui était au jeu dans cette montée sur la montagne, et ensuite de le faire redescendre. Et l'épreuve, c'était de le faire redescendre. Pourquoi? Parce que quand on atteint à l'extase religieuse, eh bien c'est très difficile de redescendre dans la réalité. Et c'est ça qui était demandé à Abraham. D'accord ? Dieu dira dans certains commentaires rabbiniques qui sont absolument magnifiques, qui donne la parole à Abraham. Et Abraham dit à Dieu, dans ce commentaire, Abraham dit à Dieu, mais tu m'as demandé de l'offrir en sacrifice. Et il répond, je ne t'ai pas demandé de l'offrir, je t'ai demandé de le faire monter. Et maintenant, je te dis, fais-le redescendre. Et Abraham continue en lui disant, mais laisse-moi au moins lui faire une petite coupure pour que je ne sois pas monté pour rien. Il faut entendre ce que ça veut dire, ça. C'est cette extase-là, cette extase de transe prodigieuse qui fait qu'il veut être satisfaite. Et je lui dis, pas du tout, je redescends et tu ne le touches pas. Le texte hébraïque, c'est ne porte pas la main sur l'enfant. Je voudrais encore, oui, je crois que je vais l'enlever, je vous ai déjà un petit peu introduit ici à travers les quelques commentaires que je vous ai donnés à ce que l'on appelle la littérature rabbinique, le commentaire rabbinique. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais y revenir maintenant, qu'on ne lit pas, que c'est des livres, on ne lit pas la Bible, mais on l'étudie. Qu'est-ce que ça veut dire l'étudier? Ça veut dire prendre le texte, poser les questions qu'il pose, essayer de le comprendre, et de le comprendre par rapport à celui qui est en face de lui, s'affronter à ses textes, pour en tirer ce qu'on peut en tirer pour sa propre vie et pour ses propres questionnements. D'accord? Donc il ne s'agit pas du tout d'une lecture historique, il ne s'agit pas de savoir si le texte a tant de. À 750 ans, s'il a été influencé par tel ou tel autre strate de civilisation. Il s'agit de prendre le texte dans son donné, dans son existence, dans son état actuel, et avec l'aide des commentaires qui se sont tissés, qui se sont tricotés à ce texte au fil des années, de le faire sien, de le comprendre, et ce texte devient finalement une partie même de l'identité de chaque juif. Donc maintenant on va rentrer plus dans la littérature rabbinique, et vous allez voir à quel point cette littérature rabbinique est attachée à la, que je vais appeler, il faut dire mieux, la liberté d'expression. Mais je n'aurais pas dû dire faut dire mieux parce que c'est vraiment une liberté d'expression. Je veux dire par là, c'est à travers les commentaires rabbiniques. Je parle évidemment du Talmud, je parle des recueils de ce qu'on appelle les midrashim, tout ce qui a servi à élucider les textes, qui est très frappant et très caractéristique, c'est qu'il y a des voies d'interprétation extrêmement diverses. Tel auteur ou tel rabbin va dire, moi je pense que ça veut dire ceci. Un autre va dire pas du tout, tel terme est utilisé dans un autre sens ailleurs, donc ça veut dire ceci. Et il y a constamment ce dialogue-là, cet échange permanent. Il n'y a pas un sens qui fait le sens canonique, ou le sens imposé, ou le sens dogmatique. Il y a une multiplicité de sens. Et plus il y a de lecteurs, ou en tout cas d'étudiants de ce texte, plus il y a de pistes et de sens qui s'ouvrent. Donc, quelque part, la pratique même de ce commentaire midrashique, avec la positionnée des termes, je vais vous donner un exemple dans un petit instant, la positionnée des termes, l'écho que les termes utilisés ont par rapport à d'autres textes, une contextualité, si vous voulez, c'est clair, et le questionnement permanent. On peut dire que cette pratique-là du commentaire, c'est vraiment une pédagogie de la liberté d'expression et de pensée. Je donne juste un exemple, j'ai utilisé le mot de polysémie. Le mot qui est utilisé, c'est un mot dans un texte vraiment à la fois fondateur et fondamental. J'aurais pu commencer par celui-là, mais je ne donne qu'une très rapide explication. Dans le texte de la création du premier couple, au chapitre 2, on nous raconte, ou en tout cas, nous avons cru qu'on nous racontait que Ève était tirée de la côte d'Adam. Or, le commentaire midrashique, donc très anciennement, le commentaire midrashique le plus ancien date de plusieurs siècles avant l'ère chrétienne, Ce commentaire graphique va dire ceci. Le mot qui est utilisé et que l'on a traduit indûment par cause signifie en fait côté. Je crois que ça commence à être connu, en particulier par Marie Balmarie, qui a retrouvé aussi ça, signifie côté. À partir du moment où Rashi, par exemple, que j'ai cité tout à l'heure, va ajouter le premier couple est apparu par coupure en deux côtés sexuellement distincts, c'est là, côté, de l'Adam primitif. D'ailleurs, Adam, ce n'est absolument pas un nom propre, là aussi, contrairement à ce que tu crois, c'est un nom commun, le plus souvent précédé de l'article. Ha-Adam, c'est l'être humain en général. Donc, vous voyez bien comment, d'une part, le mot cela, qui veut aussi dire cause, c'est un mot qui a au moins ces deux sens-là. Mais, pour l'interprétation de ce texte, vous comprenez bien combien il est lourd de conséquences d'avoir choisi, y compris pour la traduction dans la Bible juive, dans la Bible de Rabina, d'avoir choisi de traduire ce œil est tiré de la côte d'Adam, vous comprenez bien à quel point c'est lourd de conséquences, plutôt que d'avoir choisi la leçon du côté d'Adam. C'est complètement différent et les conséquences sont complètement différentes. Ça, c'est toujours pour illustrer la polysémie, la polysémie des termes, et on peut en donner des centaines d'autres exemples. Je vais reprendre l'exemple de Caa maintenant pour montrer à quel point les rabbins sont libres. Et à quel point les rabbins mettent en cause certaines choses. Vous vous rappelez que Caïn, tout à l'heure j'ai cité ce texte, dit « Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Et l'un des commentaires midrashiques, qui est aussi décliné de plusieurs manières, l'un des commentaires midrashiques va dire ceci, pour commencer ce texte, va dire ceci. Je cite de mémoire, « Cette chose est difficile à dire et difficile à entendre. Cela ressemble à un combat d'athlète, je préciserai tout à l'heure, un combat d'athlète est plutôt un combat de gladiateurs qui a lieu dans l'arène. L'un des combattants, l'un des gladiateurs ou l'autre, et celui qui est tué crie. En présence du roi. Et celui qui est tué crie, qui va demander pour moi justice au roi? Alors, le Midrash, il faut le lire évidemment au second degré. Ce sont des récits, ici c'est un récit. Vous voyez que c'est un récit qui a été écrit à l'époque de l'occupation romaine, puisqu'il s'agit d'une arène, il s'agit de combats de gladiateurs. L'idée contenue dans ce Midrash, vous le sentez déjà dans le départ, il y a là une chose difficile à dire. Cette chose difficile à dire, c'est que Dieu est spectateur du meurtre de Caïn, du meurtre d'Abel par Caïn. Dieu est spectateur et Dieu n'a pas réagi. Et Dieu n'a pas fait justice. Ce qui se dit à travers ce Midrash, c'est cette critique. Tu reprends la critique implicite de Caïn, Caïn disant, je ne suis pas le gardien de mon frère, le gardien de mon frère c'est toi. D'autres commentaires vont dire, tu n'avais qu'à ne pas me créer en créant mal, tu n'avais qu'à créer, tu n'avais qu'à faire une création qui soit entièrement bonne, alors je n'aurais pas tué mon frère. Mais le rabbin ici, à travers cette série de commentaires, à travers celui que je viens de vous citer, ose mettre en cause la justice de Dieu et ose dire que quelque part, ça n'est pas que Caïn qui est responsable, mais que quelque part, le responsable au-dessus de Caïn, c'est Dieu lui-même. D'accord? Un autre exemple, c'est, alors c'est quelque chose là que vous ne connaissez pas, je pense, c'est un texte que j'aime énormément qui se trouve dans le Talmud. Et qui est, donc je vais vous raconter de quoi il s'agit, ça se trouve dans un des traités du Talmud. Mon but, encore une fois, c'est de vous montrer la liberté, et là on le voit encore mieux, la liberté de penser et la liberté de ton des rabbins. Il s'agit, nous sommes dans le Talmud, il y a les rabbins sont assemblés et ils doivent discuter d'une question tout à fait pratique, de savoir dans quelles conditions un four peut être rendu apte, un four qui a été utilisé pour des choses non rituelles, peut être rendu apte à la consommation ou à l'utilisation pour des choses d'affaires, c'est-à-dire rituelles. Et un des rabbins dit qu'on peut, qu'il est complètement utilisable, et tous les autres s'opposent à lui. Alors, celui qui est le seul, qui est seul contre tous, dit, si j'ai raison, il va appeler à sa rescousse des miracles. Il va dire, si j'ai raison, que ce caroubier, un caroubier c'est un arbre qui porte le caroube, que ce caroubier se déplace. Et il nous raconte le texte, le caroubier se déplace. Mais les autres rabbins ne se sont pas rendus à ses arguments. Alors il reprend, si j'ai raison, que le ruisseau qui coule dehors coule en sens inverse, remonte vers sa source. Le ruisseau est remonté vers sa source, le courant est remonté vers sa source, mais là encore, les rabbins ne se sont pas laissés convaincre par ce miracle. Troisième chose, il va plus fort, il dit que les murs du Beth Amidrash, de la maison d'études, s'écroulent. Et les murs ont commencé à s'écrouler. Alors, un des autres rabbins présents a dit de quoi vous mêlez-vous, de quoi se mêlent les murs de ce Beth Amidrash? Et les murs, dit le récit, se sont arrêtés à mi-chemin et ne se sont pas écroulés complètement. Alors, le quatrième et dernier argument, imparable, une voix divine, Cole, est sortie du ciel et a dit « Pourquoi vous attaquez-vous à Rabbi Eliezer, puisque c'était son nom ?» Il a raison. Et à ce moment-là, l'un des autres rabbins dit « Il est écrit dans la Torah, dans le Deutéronome, la Torah n'est pas au ciel. De quoi se mêle la voix divine ? Les décisions se prennent maintenant chez les hommes. » Au fond, il a renvoyé Dieu à sa retraite ou à son retrait en lui disant ça ne te concerne pas. Et le récit continue en disant, et vous allez voir jusqu'où ça va, un peu plus tard, un des autres rabbins présents rencontre le prophète Élie. Et il demande au prophète Élie qu'est-ce que Dieu a pensé de tout cela. Et le prophète Élie lui répond, Dieu a ri et il a dit, les enfants m'ont vaincu, les enfants m'ont vaincu. Alors, ce récit, qui est un récit évidemment, bien entendu, comme d'ailleurs tous les récits hébraïques, quand il n'est pas permis de le prendre à la lettre, celui qui le prend à la lettre, je pense vraiment, se trompe totalement, on ne comprend rien. Ce qui est bien pour ce récit, c'est que, d'une part, on renvoie, comme je viens de le dire, on renvoie Dieu à ses soucis à lui, en lui disant ne te mêle pas de ce qui se passe chez nous, tu nous as laissé le soin de prendre en charge la création, tu nous as laissé le soin d'appliquer la Torah, alors laisse-nous le faire, c'est à nous de prendre les décisions. Et la deuxième chose, c'est que Dieu leur donne raison, c'est qu'ils ont raison de prendre en charge justement la création et de ne pas accepter ni de compter sur des miracles, ni sur des interventions surnaturelles, mais de vaille que vaille, au jour le jour, prendre en charge le monde réel, le monde concret, tel qu'il se présente. J'ai encore quelques petites minutes pour conclure quand même. J'aurais eu d'autres choses à dire, mais bon. La première chose que je voudrais dire, c'est que la liberté des prophètes que j'ai évoquée d'entrée de jeu, je vous avais dit que j'en reparlerai, et c'est dans la conclusion que je vais en reparler. Pourquoi ? Parce que cette liberté des prophètes, elle est quand même, celle de Moïse, celle de Jonas, elles sont arrêtées à un certain moment. Moïse a beau opposer son refus à ce qu'on lui demande, il est finalement contraint de le faire par la colère divine. Jonas, lui aussi, il a beau s'enfuir, se réfugier dans le ventre du bateau, être englouti par le poisson, vouloir mourir, il est repris par la parole divine, il est contraint de délivrer cette parole divine. Ce que je peut indiquer, si vous voulez, pour à l'appui de cette limitation à la liberté d'expression de ces prophètes, c'est que quelque chose de fondamental est en jeu. Dans l'histoire de Moïse, l'enjeu, à cause de cet enjeu, Moïse ne peut pas refuser ce qui lui est demandé. L'enjeu, c'est la libération. La libération des esclaves, et donc, on ne peut pas échapper à la responsabilité de contribuer à la libération. Et au-delà de la libération des esclaves hébreux, il est bien question ici de la libération de chaque être humain. Libération des Égyptes métaphoriques qui l'enferment, qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent d'accéder au statut de personne, au statut de sujet libre. Donc là, quand on est en face d'un enjeu fondamental comme celui-ci, eh bien la liberté de refus, elle est refusée, elle est limitée en tout cas. Jonas, ça nécessiterait là aussi, je le dis très rapidement, dans Jonas, ce dont il est question, lorsqu'on s'intéresse de près à ce livre-là, c'est au thème du repentir, au thème de la teshuva. Je préfère le dire en hébreu, au thème du retour. Ce thème du retour qui est tout à fait fondamental dans la tradition juive, parce que le fait de pouvoir revenir sur ce qui a été fait, c'est que jamais personne n'est prisonnier de ce qu'il a fait. Il y a toujours une possibilité de revenir. Or, Jonas, ce que Jonas refuse aux habitants de Ninive, c'est précisément cette possibilité du retour de la teshuva. Et pourquoi? Parce que, pour Jonas, ce qui est fondamental, c'est la justice. La justice qui tombe comme un couperet, on a fait mal, on est puni. L'idée dans le livre de Jonas, c'est qu'on peut revenir, quels que soient les actes que l'on a commis. Et les habitants de Ninive reviennent de leurs errements, de leurs erreurs, de leurs fautes. Et c'est cela que Jonas ne supporte pas. Il le dira à la fin dans le troisième chapitre, il dira, je savais bien que tu es un Dieu miséricordieux. Que tu es un Dieu miséricordieux qui pardonne, et c'est pour ça que je ne voulais pas accomplir la mission. Pour Jonas, c'est la justice, le retour ne doit pas, le retour au Teshuva ne doit pas entrer en ligne de compte. Et donc là aussi, la voix divine ne l'a pas lâchée, parce qu'il s'agissait justement d'asseoir pour tout le monde, et c'est la liste que les habitants de Ninive, que je ne pas des Hébreux, qui représentent la justice, d'avoir cette possibilité, cette ouverture de la teshuva qui permet d'échapper à ce que l'on a fait, d'échapper à ce que l'on a été, et de s'inscrire dans un cheminement nouveau. Je donnerai encore l'exemple de la génération de la tour de Babel, dont je n'ai pas parlé, où on a l'impression à première lecture que c'est justement la liberté d'expression qui est brimée, qui est touchée, que tout le monde parle la même langue, et que, à la fin du texte, cette unité-là est pulvérisée en de nombreuses langues, en d'innombrables langues, et que personne ne se comprend plus. Mais, là encore, ce qui est en jeu, il faudrait passer une heure à décortiquer le texte qui a démontré, ce qui est en jeu, ça n'est pas l'unité de l'humanité, c'est l'uniformisation, la massification de l'humanité. Je pourrais vous montrer dans le texte, évidemment, on n'a pas le temps. Et donc, quelque part, ce qui se passe, c'est que cette pulvérisation en d'innombrables langues va refaire place à la différence, à l'espace, à la distance, et va donc permettre d'instaurer la possibilité même du dialogue. Le dernier, alors je terminerai juste en deux mots pour dire ce qui me semble être ce que j'appellerais le noyau dur qui sort de tout cela, de tout ce que j'ai essayé de vous dire ce soir, c'est trois choses. La première, c'est l'affirmation que le changement est possible, qu'on n'est pas enfermé dans quelque chose qui est condamné, qui est destiné à se répéter, mais que le changement est possible, et non seulement qu'il est possible, mais qu'il est souhaitable. Le changement, c'est positif. Quand je dis changement sur le plan collectif, mais aussi changement sur le plan individuel. Il est souhaitable, je tire cela, évidemment, de ce récit fondateur de la sortie d'Égypte, où on doit se libérer, et on doit se libérer, mais pour se limiter, tel que c'est mon enfant, par ce que le texte d'Égypte appelle le don de la loi. Une liberté qui n'est pas encadrée par la loi, on l'a vu d'une autre manière au début de cette intervention, une liberté qui n'est pas encadrée par la loi, c'est une liberté qui n'est pas respectueuse de l'autre. La loi est là pour encadrer, pour limiter la liberté et faire telle que la liberté de chacun puisse exister. La deuxième chose, mais c'est peut-être dire la même chose d'une autre manière, c'est que la parole et la pensée doivent être libres, mais assorties du souci de la responsabilité. Là aussi, on retrouve d'une autre manière ce que j'avais dit au départ en parlant de la liberté d'expression en général. Et ce sera le mot de la fin. On voit que cette liberté d'expression, telle que j'ai essayé de l'illustrer à travers ce parcours rapide dans le texte biblique et le texte biblique, cette liberté d'expression, elle est toujours liée à quelque chose qui est de l'ordre du salut. Le salut, quand je dis salut, c'est pas le salut dans notre monde, mais c'est le fait d'être sauvé de ce qui vous enclos et de ce qui vous empêche d'accéder au statut d'un être humain authentique.